Donc Olivier Henry, tu fais un workshop de 4 jours avec les étudiants des Beaux-Arts. On est aux polarités. Qu'est-ce que tu leur proposes en fait?
En fait, je leur propose de travailler sur un processus collectif d'une part, et d'autre part sur un processus d'apprentissage de techniques libres de manipulation du son dans l'espace. D'une part, manipulation du son dans un premier temps, et puis dans un second temps, cette manipulation dans l'espace, la façon dont on peut le déplacer, l'éloigner, le rapprocher et le faire tourner, puisque nous sommes à l'intérieur en fait d'un dispositif constitué de 4 et bientôt 6 enceintes disposées en cercle, à l'intérieur duquel nous travaillons, et non pas à l'extérieur.
Donc il s'agit d'une exploration, d'une création sonore.
C'est un processus qui implique la création, mais c'est, je ne sais pas si on peut l'appeler une création. En tout cas, le but, ce n'est pas d'en faire une création ou de faire œuvre. C'est plutôt de leur donner les outils qui, eux, leur donnent la possibilité de continuer de leur côté leur recherche et d'y accomplir éventuellement, s'ils le souhaitent ou pas dans cette direction, de pouvoir inclure dans leur cursus ou leurs œuvres
Et donc, on travaille avec un logiciel qui s'appelle Pure Data.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce
programme? Pure Data, c'est un programme qui est un logiciel libre. Qui en fait est plutôt protéiforme. Il recouvre beaucoup de réalités différentes. À la base, c'est un logiciel conçu pour le traitement audio en temps réel. Donc, il ne s'agit pas d'un logiciel de mixage, par exemple. Il permet de le faire si on le souhaite, mais à la base, c'est un environnement de programmation graphique orienté audio temps réel. Au fil du temps, du fait.
C'est ce qu'on fait là.
Là, c'est ce qu'on fait.
Ouais. Ouais,
c'est ce pourquoi on utilise actuellement. On l'utilise aussi couramment comme contrôleur, c'est-à-dire qu'on peut connecter sur ce programme toute une foultitude d'appareils, que ce soit des joysticks courants de jeu, que ce soit d'autres entrées son, que ce soit des caméras, des webcams, des petits circuits intégrés comme les Arduino, qui permettent de se connecter à l'environnement physique par le biais de capteurs de température, d'accéléromètres, toute une foule de variables et de paramètres de notre environnement, visibles et invisibles, audibles et inaudibles.
Par des capteurs,
qui sont en fait, on va dire, des sortes d'extensions technologiques de notre corps, qui permettent en tout cas de les numériser. Une fois qu'on les a numérisés, on peut traiter ce signal, lui donner du sens, en fait, et le réinjecter dans l'environnement physique par le biais de la diffusion sonore.
Sonore, là, pour nous, mais ça peut être aussi visuel.
Oui, tout à fait.
Ouais.
En fait, ce programme, d'une part, a une multitude d'entrées, mais peut avoir une multitude de sorties également. On peut réorienter sa production vers un site web, vers, pourquoi pas, une passerelle SMS, vers de l'audio, de la vidéoprojection, de la 3D également, tout ça en temps réel.
Est-ce que tu penses que ce logiciel Pure Data, il a été utilisé par des gens dans un domaine qui n'était pas celui des arts ou de la création qu'il a pu servir
Personnellement, j'ai assez peu d'exemples de cet ordre. En fait, ce qui se passe aussi, enfin, j'en connais pas personnellement, je ne connais pas d'application industrielle ou sans doute, évidemment, dans le domaine de l'éducation, parce que c'est un logiciel libre, donc c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de problème d'acquisition de licence pour des étudiants qui, généralement, n'ont pas des bourses trop profondes. En fait, les domaines où je connais des applications qui sont peut-être, qui sortent un peu du domaine artistique, ça reste quand même toujours dans le domaine, par exemple, de la captation sonore. Il y a des gens qui ont travaillé sur des ordinateurs de la taille d'un un peu plus gros qu'un téléphone portable qui embarque Pure Data. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant Pure Data, il existe aussi, il est compatible avec les téléphones. Donc il y a une version pour iPhone, pour téléphone sous Android, qui est un autre système d'exploitation que celui d'Apple, qui marche aussi sous certains téléphones Nokia. Donc c'est vraiment un environnement qui a tendance à s'étendre, à se répandre dans les différentes technologies qui, elles aussi, nous envahissent.
Mmh. En tout cas, on voit que les étudiants des Beaux-Arts sont très concentrés, très demandeurs, qu'ils ont envie d'apprendre ça.
Oui.
Et que c'est ça.
Non, je dois dire que c'est assez agréable, en fait, de voir qu'en face, c'est pas l'histoire d'être en face, parce que là, on est plutôt dans un dispositif inclusif, justement, où on cherche à tirer parti des savoir-faire de tout le monde, qu'il n'y a pas d'histoire de catégorie, puisqu'on a à la fois des étudiants de deuxième année comme de cinquième année. Donc ça, c'est plutôt agréable de se dire qu'on n'est pas dans une logique, justement, de droit d'aînesse ou de choses de cet ordre, mais qu'au contraire, c'est souvent ceux qui expriment au plus fort leur intérêt. Et on voit qu'il y a beaucoup de concentration, qu'effectivement, même les gens qui ont un peu des difficultés, parce que c'est pas un environnement, celui de la programmation, dans lequel ils sont à l'aise, ils s'accrochent malgré tout, parce qu'on sent qu'ils ont un projet au bout, ils ont un but. Et ils se disent, tiens, là, effectivement, on me propose quelque chose qui me permet d'atteindre mon but.
Ouais, pour créer des environnements interactifs, par exemple.
Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, là, on travaille plutôt dans l'idée de performance collective, mais chacun peut ensuite se l'approprier à des fins d'installation ou à des fins de spectacle. Mm-hmm. Personnellement, je l'utilise régulièrement pour des spectacles, pour que ce soit pour la vidéo, pour la lumière, ou pour faire interagir la lumière et la vidéo, ou pour la diffusion sonore.
Oui.
Tout ça, c'est des choses que... C'est tout un champ de possibilités, en fait, qui s'ouvre. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui le sentent, même s'ils ne savent pas exactement où ils vont.
Oui.
Et après tout, quand on est en deuxième année, on a encore
trois ans
devant soi d'études complètes, pour pouvoir élaborer un projet. Là, ce qui est important aujourd'hui, c'est de leur donner des outils, et des outils dont ils soient réellement les détenteurs, et que ce ne soit pas des outils dont on dispose le temps qu'on est à l'intérieur de l'école, et ensuite, dès qu'on en sort, on se retrouve dans un environnement un peu plus agressif et moins protégé, et à ce moment-là, on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais devoir me réadapter, me réinventer mes outils. Là, c'est des choses, c'est vraiment tout un bagage qu'on peut emporter avec soi. De la même façon, tous les programmes qu'on appelle patch sont en fait des fichiers textes qu'on peut s'échanger par email, qu'on peut s'échanger par clé USB, et c'est une des idées. C'est que chacun reparte tous les soirs, s'il en vit, avec ce qu'il a programmé pendant la journée ici, les patchs que moi-même j'ai apportés, que j'ai réalisés pour la spatialisation, ils sont déjà en ligne, en fait, sur un serveur où on peut se connecter, les récupérer. Voilà, donc en fait, c'est autant l'idée d'apporter un savoir-faire, une ouverture, avec aussi l'idée de leur laisser la dimension artistique finalement aussi à leur portée et à leur propre guise. Il ne s'agit pas d'un workshop où moi j'essaye d'imposer une vue sur le texte, la narration ou autre. Mm-hmm. On apporte des outils dont on avait parlé ensemble, qu'on avait élaboré ensemble intellectuellement. Aujourd'hui, ils sont là concrètement et c'est libre à eux de les investir.
Mm-hmm.
Ce que je voulais dire par là, c'est que à un moment donné, c'est cette possibilité-là de pouvoir vraiment se créer son bagage, emmagasiner des infos et puis garder l'outil de base qui est le code texte,
voilà,
le code source.
Et les enrichir et les repartager, parce qu'il y a cette idée-là dans le logiciel libre de partage de données.
Tout à fait.
Et d'invention collective, quoi.
Et finalement, d'accumulation du savoir. C'est un processus d'accumulation du savoir. Et non pas de savoir utiliser un programme conçu et réalisé par un ingénieur quelque part, dans une entreprise quelque part. C'est un processus totalement différent. Mmh. Mais c'est vrai qu'au départ, il est un peu plus... la pente est un peu raide, comme on dit.
Au départ, oui.
Ouais. Effectivement, il y a des moments où moi je vois bien, je sais bien pertinemment que ça chauffe, parce que moi aussi je suis passé par là il n'y a pas si longtemps, ça remonte finalement. J'ai commencé à faire ma bascule, on va dire, du non-libre vers le libre en 2003. Finalement d'ailleurs à l'occasion des grèves d'intermittents, ce qui nous a vraiment donné l'occasion de reconsidérer nos outils de travail globalement, que ce soit dans la relation au théâtre, au lieu de production, au ministère de la culture, ou nous-mêmes, entre nous, dans les compagnies. Donc il y a également cette dimension politique qui est sous-jacente, même si évidemment là on n'est pas là pour se lancer dans des grands discours, mais malgré tout, je pense que tout ça, les gens qui se sentent concernés le sentent, le ressentent, et que ça joue aussi dans l'attachement qu'on peut éprouver au fur et à mesure pour ce genre d'outil qui effectivement n'est pas toujours d'un maniement aisé.
Mmh. D'accord. Bon. En tout cas, je pense que ce workshop marque un petit peu les étudiants de deuxième année. Beaucoup, il y a beaucoup de deuxième année. Donc, en effet, ça veut dire que troisième, quatrième, cinquième, ils vont continuer à travailler ça. Et je pense qu'on remettra une chose en place autour des logiciels de libre et surtout de Pure Data dans les années futures.
Suivant, Laura et Jennifer.